George Sand, Kouroglou. Préface. Avez-vous lu Baruch? Peut-être, mais vous n'avez pas lu Kouroglou. Lecteur, mais que lisez-vous donc? Quoi, vous n'avez pas lu Kouroglou? Kouroglou a été traduit du persan, car vous n'êtes pas obligé, ni moi non plus, de savoir le persan. Et vous ne vous en doutez pas plus que je m'en doutais la semaine dernière. Ah, si j'étais lecteur de mon état, je ne voudrais pas avouer que je ne connais pas Kouroglou. En vain, vous m'allégrez que Kouroglou a été traduit du perso turc en anglais, et que peut-être vous ne savez pas l'anglais. C'est une mauvaise défaite. Vous devriez le savoir, et moi aussi. Mais je ne le sais pas, ni vous non plus, je suppose. Pourtant, je le comprends assez pour essayer de vous faire connaître Kouroglou. Et je commence, renvoyant ceux de vous qui lisent l'anglais couramment, à la traduction première, qui est toujours la meilleure, ayant été faite par un homme versé dans les langues orientales et dans les dialectes turca-turkman, perso-turc, zedo-persan et autres que nous connaissons aussi de réputation. Mais avant d'attendre cette merveilleuse et curieuse histoire, il est bon que vous sachiez que le fond en est véritable, et que le célèbre Kouroglou, dont vous n'aviez jamais entendu parler, est un personnage historique. Le nord de la Perse et les rives de la mer Caspienne sont pleins de sa gloire, et le récit de ses exploits est aussi populaire que celui de la guerre de Troie au temps d'Homère. Il est vrai qu'un Homère a manqué à notre héros jusqu'à ce jour, et qu'il a fallu la patience, la curiosité et le génie investigateur d'un Européen pour assembler, résumer et coordonner les interminables fragments que les rhapsodes orientaux débitent aux oreilles ravies et enflammées de leurs auditeurs. Honneur et grâce soient donc rendus à M. Alexandre Tchotsko, l'Homère de Kouroglou. L'épopée de sa vie n'avait jamais été écrite, et il n'est pas bien prouvé que Kouroglou lui-même ait su l'écrire. Il avait tant d'autres choses à faire, le vaillant diable à quatre, boire, battre, être un vers galant, mais ce n'est pas tout. Il avait encore le talent de chanter en improvisant. Sa poésie et sa voix résonnaient de la Perse à la Turquie, de Koï à Erzurum, et sa guitare faisait presque autant de miracles que son cimeterre. Mais qu'était-ce donc que Kouroglou? C'était bien plus qu'un poète, bien plus qu'un barde, bien plus qu'un lettré, bien plus qu'un pontife, bien plus qu'un roi, bien plus qu'un philosophe. Il était ce qu'il y a de plus grand en Perse. Il était bandit. Quand vous aurez fait connaissance avec lui, vous verrez que ce n'est pas peu de chose. Mais vous conviendrez qu'à moins d'être Kouroglou, il ne faut pas s'en mêler. Kouroglou était, c'est M. Alexandre Tchotsko qui parle, un Turkman Tukka, natif du Khorasan septentrional. Il a vécu dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Il a rendu son nom illustre en pillant les caravanes sur la grande route, mais ses improvisations poétiques l'ont fait plus grand encore. Des Turcs Iliotes, tribus errantes transplantées à diverses époques du centre de l'Asie aux vastes pâturages qui s'étendent de l'Euphrate à la Méroé, ont religieusement conservé ses chants et la mémoire de ses actions. Il est leur guerrier modèle et leur barde nationale dans toute l'étendue du terme. On montre encore aujourd'hui les ruines de la forteresse de Chamlibil, bâtie par Kouroglou dans la délicieuse vallée de Salmas, un district de la province d'Azerbaïdjan. Encore aujourd'hui, on manque rarement de réciter dans une fête les chants d'amour de Kouroglou. Durant les querelles intestines et les combats que livrent les Iliotes pour leur indépendance, aux Persans, leurs maîtres, quand les deux armées ennemies sont au moment d'engager la bataille, ils s'animent les uns les autres et défient l'ennemi. les Perses, en chantant des passages du Cham Nama de leur Ferdowsi, et les Ilyotes en hurlant les chants de guerre de leur Kouroglou. Sous les fenêtres du palais du Shah, lorsque les trompettes et les tambours du Nekarakana, la garde d'honneur, saluent le soleil levant, les musiciens ont coutume de jouer l'air guerrier de Kouroglou, celui qui a servi de thème à ses poésies lyriques et sur lesquelles il improvisait ordinairement. M. Chodzko établit un parallèle entre Ferdowsi et Kouroglou. Il ne met point en balance la valeur littéraire de ces deux poètes, l'un écrivant une magnifique épopée en langue arabe, achevant son œuvre avec soin au milieu des délices d'une cour, et l'autre improvisant au milieu des déserts et dans un dialecte sauvage, des strophes énergiques mais décousues et farouches comme sa vie, son caractère et ses compagnons d'armes. Cependant, M. Chodzko s'étonne avec raison que le plus renommé et le plus populaire des deux, dans une plus vaste étendue de pays, ou du moins chez des admirateurs plus passionnés et plus nombreux, le bandit ménestrel Kouroglou, soit resté jusqu'à ce jour inconnu aux Européens. C'est après un séjour de 11 ans dans ces contrées, après avoir interrogé et écouté attentivement les rhapsodes et les bardes qui passent leur vie à raconter et à chanter au peuple les exploits et les poésies de Kouroglou, qu'il est parvenu à écrire la vie épique et à transcrire fidèlement les hymnes de ce héros barbare. Les versions les plus exactes, les récits les plus poétiques et les plus complets, il les a trouvés, dit-il, dans la dernière classe du peuple, là où le souvenir fanatique et l'amour enthousiaste de cette nature de fait et de ce genre de poésie avaient dû nécessairement pénétrer et se graver davantage. La nouveauté d'un tel personnage, l'intérêt de ses aventures et surtout la peinture énergique des mœurs et du caractère des tribus nomades dont Kouroglou est le type, et aux yeux desquels il est un type idéal, ont paru assez importantes aux orientalistes de Londres pour que le comité de l'Oriental Translation Fund de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ait fait imprimer et publier à ses frais les aventures de Kouroglou. Cette épopée, jointe au chant des peuples qui habitent les rives de la mer Caspienne, chant populaire des Kalmouks, des Tatars d'Astrakhan, des Perso-Turcs, des Turkmans, des Gilani, des Highlanders, Redbars, des Taulish et des Mazenderams, forme un beau volume sous ce titre « Specimens of the Popular Poetry of Persia ». As found in the adventure and improvisation of Kouroglou, the bandit menestrel. Cette publication n'est pas en effet importante au seul point de vue de l'amusement et de l'intérêt épique. Ce n'est pas seulement un héros de l'Arioste que la Perse nous révèle, mais c'est toute une histoire de mœurs, c'est tout un génie national que Kouroglou. C'est le nomade dans toute sa poésie plaisante et terrible, c'est le guerrier asiatique dans toute son exagération fanfaronne, c'est le brigand de la Perse dans toute sa ruse, dans toute sa férocité et dans toute son audace. Kouroglou est cruel, ivrogne, glouton, libertin. C'est le plus grand pillard et le plus grand vantard que nous ayons jamais rencontré, même chez nous, où ses qualités sont si fort répandues par le temps qui court. Il est entreprenant, vindicatif, insatiable de richesse et de plaisir, fourbe, brutal et impitoyable dans la colère. Il n'en est pas moins l'idole de ses compagnons et de leurs nombreuses postérités. Ses peccadilles ne le rendent que plus aimable. Les femmes en sont folles, et les enfants rêvent de lui, non pas comme d'un croque-mitaine, mais comme d'un Tancrède ou d'un Roland. Tandis que le Rustem de Ferdowsi est un vrai chevalier, fidèle à son prince ou prosterné devant son dieu, Goulagoulou ne connaît guère d'autre dieu que lui-même et n'est fidèle qu'à son propre serment. À cet égard, il affiche une loyauté et une générosité qui ne sont point sans grandeur et sans danger, vu la mauvaise foi des ennemis qui le poursuivent. Une seule trahison déshonore sa vie, mais il la pleure amèrement, et le remords lui inspire le plus beau de ses chants de douleur. Un seul amour pénètre jusqu'au fond de son âme et fait de lui un être sympathique par quelque endroit. C'est sa tendresse exaltée pour son fils adoptif, Ayvaz, le Benjamin, le Renaud du poème. Mais le véritable héros de la vie de Kongologlou, ce n'est point Kurloglou, ce n'est pas le bel Ayvaz, ce n'est même pas le spirituel marmiton Amsabeg. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un cheval. C'est le divin Kirat, près duquel les coursiers d'Achille et tous les palefrois renommés de la chevalerie ne sont que de pauvres poneys. Le poème s'ouvre par la formation céleste de Kirat, comme vous allez le voir, lecteur, car j'entreprends de vous raconter tout le poème. Mais comme M. Tchansko l'a oralement transcrit, je me permettrai d'abréger et de résumer la traduction de M. Tchansko. Quand je la citerai textuellement, j'aurai soin de l'indiquer. Le poème est divisé par chants que M. Tchansko intitule « Entrevue »,« Meetings » en anglais, « Mijelis » en perso-turc, que nous traduirons par « rencontre ». Ce sont les rhapsodies que l'haleine d'un Kurloglukhan peut fournir en une séance à l'attention d'un auditoire. Les Kurloglukhan sont comme les chats Namakan de Ferdowsi, comme les Koran-Khan du prophète, des bardes de profession qui, en s'accompagnant de la guitare, récitent au peuple et aux amateurs les faits, gestes, maximes et improvisations de leur héros. La mémoire de ces chanteurs, dit M. Tchansko, est vraiment incroyable. À toute sommation, ils récitent d'une seule haleine et durant des heures entières, sans la moindre hésitation à partir du vers qui leur est désigné par les auditeurs.